Let's go, je veux pour partir. Je me regarde une nana, faut pas être parfait. Oh merde, je recommence à douter. Peut-être que c'est pas le thème, peut-être que j'en ai trop fait trop tard. Je me sens un fuckboy, putain. Je peux pas aller comme ça, non. Je ressens pas le mojo, baby. Je remonte en vitesse, mettre autre chose, baby. Je te sape dans toute la pièce, mais je sais toujours pas quoi mettre. Je passe des heures à m'habiller, je dois essayer toute ma veste. Pourquoi y'a jamais rien qui me va? C'est toujours comme ça quand je.
Attention,
RH moins 10
secondes. 9, 8, 7,
6,
5, 4, 3,
2, 1,
0.
Et le rythme.
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures. Avant minuit.
Yes, man.
7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllabe,
la radio sauvage.
Mercredi 3 juin 2026, il est 6h avant minuit, l'eau, c'est la vie. Peut-être que dans 20 ans, comme disait l'autre, il n'y en aura plus. En attendant, elle est de retour un peu dans le ciel rennais et ça fait plaisir. Ce n'est pas que dans le ciel que l'âge de zoo refait son apparition, mais aussi dans un petit cabanon tout bleu, place de la mairie à Rennes. Une fontaine à eau publique grâce à laquelle vous pourrez vous hydrater, vous et votre chien, si vous en avez un, parce que l'équipement fonctionne aussi à hauteur de toutou. Et oui, eux aussi ont soif en ces périodes de forte chaleur. En fait, j'ai appris dans Ouest France aujourd'hui que la ville a carrément mis en place un dispositif appelé « Soif de Rennes ». Le principe, vous pouvez remplir gratuitement votre gourde dans des établissements partenaires. Il suffit de repérer les commerces, bars, hôtels ou restaurants qui ont un sticker « Soif de Rennes » sur leur vitrine. Je vous passe l'info. Tout de suite, le flash d'Anna.
Drone contre drone. Ce matin, l'Ukraine a frappé des sites énergétiques et militaires de Saint-Pétersbourg, ainsi que le site terminal pétrolier et la base navale de Kronstadt. Le timing n'est pas anodin. La ville accueille en ce moment même son forum économique international annuel qui rassemble de nombreux dirigeants russes. Une autre frappe de drone ukrainien a atteint un bus en région de Donetsk. Elle a fait 7 morts et 11 blessés. C'est une réponse aux attaques de la nuit du 1er au 2 juin. 73 missiles et plus de 650 drones russes ont visé Kiev, Kharkiv et Odessa. Le bilan, au moins 23 morts, dont 16 dans la seule ville de Dnipro. Parmi les armes utilisées, des missiles hypersoniques, particulièrement difficiles à intercepter. Seuls les systèmes américains en sont capables. Volodymyr Zelensky a renouvelé sa demande en urgence de missiles pour ses systèmes Patriot. Près de 7 millions d'électrices et d'électeurs appelés aux urnes en Guinée. Les élections législatives et communales du pays se sont tenues dimanche dernier. Ce vote est présenté comme une des étapes du retour à l'ordre constitutionnel 4 ans après le coup d'état du général Mamadi Doumbouya en septembre 2021. Si le scrutin s'est déroulé dans le calme, la participation a été très faible. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette abstention. D'abord, l'appel au boycott lancé par une large coalition de partis d'opposition et d'organisations civiles. L'opposition a en effet dénoncé une mascarade électorale, critiquant des résultats prétendument joués d'avance. Et puis aussi le calendrier. Le scrutin tombait effectivement quelques jours seulement après Tabaski, fête célébrée en famille et souvent au village. Hier, le pape Léon XIV a nommé une femme laïque à la tête d'un dicastère. C'est la première fois dans l'histoire du Vatican qu'une telle nomination a lieu. Solène nous en parle.
La mexicano-américaine Maria Montserrat Alvarado deviendra en novembre la nouvelle préfète du dicastère pour la communication. Elle a occupé des postes à responsabilité au sein du Fonds Beckett pour la liberté religieuse, participant à des initiatives consacrées à la défense de la liberté religieuse et à la promotion de la dignité humaine. Depuis 2023, elle est présidente et directrice des opérations du média catholique EWTN News. Elle supervise des plateformes médiatiques internationales produisant des contenus pour la télévision, la radio, la presse écrite, les médias numériques et les réseaux sociaux. Et ça tombe bien puisque le Dicaster de la communication, c'est l'organisme chargé de superviser les activités du Vatican dans les domaines de la télévision, de la radio, de l'internet, de l'édition et de la presse écrite dans le monde. Maria Montserrat Alvarado devient ainsi la première femme non religieuse nommée préfète d'un dicastère du Saint-Siège. Elle succède à Paolo Ruffini, premier préfet laïque d'un dicastère de la Curie romaine, le gouvernement de l'Église. La nomination de Maria Montserrat Alvarado suit le processus de renouvellement et de réforme de la Curie romaine entamé par le pape François. L'année dernière, il avait nommé pour la première fois une femme à la tête d'un ministère. La religieuse Simona Brambilla est la toute première femme à faire partie du gouvernement de l'Église catholique. Elle a pris la tête du dicastère en charge des ordres et congrégations religieuses. Sœur Raffaella Petrini a ensuite pris la tête du gouvernorat de l'État de la Cité du Vatican, qui exerce le pouvoir exécutif du Saint-Siège sous son autorité. Le pape François, décédé en avril 2025, avait appelé à dépasser la mentalité machiste au sein de l'Église catholique. Il lui reprochait de ne pas confier assez de postes de responsabilité aux religieuses. Il avait insisté pour qu'on ne les traite pas comme des domestiques.
Et son successeur continue sur cette voie. Merci Solène. Il incarnait pour beaucoup l'idéal de l'intellectuel humaniste, engagé pour la paix, la défense du droit international et la cause écologique. Emmanuel Macron a rendu ce matin un hommage national au sociologue et philosophe Edgar Morin, décédé vendredi à l'âge de 104 ans. La cérémonie aux Invalides a eu lieu en présence de son épouse, la philosophe marocaine Sabah Abouessalam, et de plusieurs personnalités politiques et intellectuelles françaises. Figure majeure de la vie intellectuelle et médiatique, Edgar Naoum, de son vrai nom, a écrit une quarantaine d'ouvrages largement traduits. Dans son essai autocritique paru en 1959, le philosophe relate son exclusion du PCF et ses propres aveuglements face au stalinisme. À la fois historien, philosophe et scientifique, il a tenté de briser les frontières entre les disciplines en cherchant à les réunir au profit d'une vision culturelle et scientifique humaniste. Le cadmium est-il devenu le chlordécone d'aujourd'hui ? 30 ans après le drame du chlordécone, le Parlement a adopté hier une loi reconnaissant la part de responsabilité de l'État. Aux Antilles, plus de 90% de la population est contaminée. En parallèle, une nouvelle proposition de loi visant à réduire l'exposition au cadmium, ce métal lourd cancérogène, est débattue à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Portée par les députés écologistes Benoît Biteau et Clémentine Autain, le texte prévoit d'appliquer les recommandations de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. À ce jour, la France fait figure de mauvais élève. En effet, la teneur maximale autorisée est de 90 mg par kilo, soit un niveau de 4,5 fois supérieur à ce que l'ANSES préconise. Le gouvernement lui préconise de réduire le seuil maximal dans les engrais phosphatés à 60 mg par kilo dès 2027, puis 40 à partir de 2030 et 20 à partir de 2038. Demain, c'est l'AG de l'association ESS Cargo et Compagnie. Courez-y ! L'association, à travers l'animation de temps d'échange, d'ateliers de sensibilisation aux jeux écologiques et sociaux, souhaite créer du lien entre l'université et le quartier de Villejean. Ça se passe où et quand ? Eh bien, ça se passe demain jeudi. L'AG commence à 17h dans la salle Pina Bosch du premier étage du bâtiment R à la maison des étudiants. Mais tu peux venir dès 16h30 pour faire connaissance et mieux connaître l'association. Et après l'AG, le documentaire « Le temps d'un échange » sera projeté. Il a été réalisé par Yasmine et Estelle de l'asso Zéro de Conduite et laisse la parole au groupe d'entraide de Villejean-Beauregard.
Et qui peut venir, Anna ?
Eh bien, tout le monde est le bienvenu. Et pour toute info complémentaire, tu peux écrire un mail à contact@sescargo.fr. Le festival du début de l'été à Rennes est bientôt là pour une nouvelle édition. Les tombées de la nuit, c'est 60% de programmation gratuite partout dans la ville, dans les quartiers comme dans le centre-ville, mais aussi dans toute la métropole rennaise, comme l'explique Morgane Le Gallic, directrice et programmatrice de l'événement au micro d'Héloïse.
Pour nous les tombées, c'est important d'être tant dans le centre-ville que dans chaque quartier de Rennes. Se concentrer sur un quartier, c'est aussi multiplier la chance que les gens puissent enchaîner leur parcours d'ici au centre-ville et de s'adresser aussi plus particulièrement chaque année aux habitants d'un seul quartier qui redécouvre les tombées, qui est quand même très connu, mais voilà, de continuer à créer des liens avec les nouveaux habitants. On sera effectivement surtout Maurepas, côté Groschen et côté Gailleul, avec l'idée d'être à la fois dans des environnements très urbains, comme celui où on est là juste maintenant, la place Lucie Aubrac, qui est assez récente au final. On y proposera deux spectacles, New Rose, un concert de cirque, un récit de l'enfance de Baos Temo, qui est un très bel interprète, et aussi un projet participatif Portrait de famille, des habitants et des amateurs qui ont répété un spectacle sur qu'est-ce qui donne un air de famille, qui est tout à fait savoureux. Et on aura aussi une programmation entièrement professionnelle, le spectacle de théâtre Friterie mon ami à l'Agora du Pomme, donc là c'est plutôt côté Groschen. Deux propositions, Nous camperons ici, de Sébastien Barrier, qui est un tour de chant bavard et rock, près d'une camionnette, qui jouera au Jardin du Bonheur, Place Saint-Laurent. Voilà, on aura aussi une créatrice rennaise, Laure Fontvieille, qui jouera sa création Les Parts Manquantes autour des femmes célèbres, et inconnue aussi, en promenade dans le quartier des Gailleuls.
Investissement aussi du cloître du Tabor.
Oui, le cloître a été en travaux pendant 3 ans, il est magnifique et refait. Ça va être un lieu à la fois de programmation de théâtre, de programmation musicale, scénographié par l'équipe des Grands Géants, et on fera aussi un bal le samedi soir, le bal des Ardentes. C'est la 3e année où on fait la tournée métropolitaine, et nos collègues du Reux, de Passé, de Chartres, de Bretagne et de Laillé nous accueillent justement autour de cette proposition New Rose de Baos Temo, ce concert de cirque qui jouera dans toute la métropole la semaine en amont du festival, donc à partir du 24 juin, et la semaine même du festival, la semaine du 30 juin.
La tournée métropolitaine des Tombées de la Nuit commence la semaine du 24 juin. Le festival à Rennes, ce sera du 30 juin au 5 juillet. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, I want to ride my bicycle. I want to ride my bike, I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. Et si vous aussi vous voulez rider du vélo, pas de problème, rendez-vous sur l'esplanade Charles de Gaulle à Rennes ce week-end. Ce sont 2 jours de vélo mais aussi de marche avec cette année la participation du Cargo Bike Festival. Vous trouverez sur l'esplanade plein de stands d'associations comme Rayon d'Action, La Petite Reine, Roison Mobility, mais aussi un show trial avec des figures à vélo, une vente de vélos d'enfants, une bourse au vélo cargo. Et pour bouger un peu plus, des balades guidées à pied et à vélo par destination Rennes, ainsi qu'une parade à vélo dans le centre-ville avec un DJ set organisé par Rayon d'Action et Techno Vélo.
Un flash signé Anna, merci à toi.
Merci.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
0h.
À minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Aïza a plein d'invités ce soir pour l'interview.
Et oui, bonjour, aujourd'hui on a le plaisir de recevoir dans le studio de Syllab Polycarpe Thiappé et sa veste grise, Jean-Pierre Tardivel et son t-shirt rouge, Kalia Souleymane Akron et son bandana bleu, et Dariel Tillon et son haut noir. Vous êtes ici à l'occasion de la 9e édition du Festival international du cinéma numérique de Cotonou, édition Rennes, bonjour.
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 Polycarpe, tu es réalisateur, directeur, fondateur du Festival international du cinéma numérique de Cotonou et président de l'association La Persévérance 35. Jean-Pierre Calia et Dariel, vous êtes réalisateurs et réalisatrices. Vos films seront projetés durant le festival. C'est gratuit et ça se passe le 4 et 5 juin aux Ateliers du Vent et du 5 au 7 juin au Musée des Beaux-Arts. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce festival ?
Ouais, tout d'abord, c'est pour le Cap Cap. Je suis le promoteur de ce festival il y a de cela 15 ans. Donc c'est un festival qui est dédié tout d'abord dédié aux jeunes qui n'ont pas de moyens à l'aide de numérique. Donc c'est à cet objectif-là que le festival a été mis sur pied depuis 2009.
Justement, 15 ans, et comment il est né ce projet ?
Il est né, tout d'abord, je travaille dans une boîte en tant que projectionniste. Et puis dans cette boîte, il y a c'est un festival aussi qui s'appelle Quintessence, qu'on faisait chaque année. Donc c'est là que j'ai eu la chance d'être formé par rapport à tout ce que je fais actuellement. C'est là que l'idée est venue pour que moi-même je prouve ce que j'ai appris pendant cette durée de formation-là aussi.
Et un festival, ça apporte quoi en plus comparé à une simple projection?
En fait, ce n'est pas une simple projection. C'est un festival qui apporte beaucoup de choses. Tout d'abord, ce n'est pas seulement des films, il y a aussi des marchés pour les associations qui œuvrent en Afrique. Il y a ce volet-là aussi. Et quand je prends le volet de projection, c'est des films que tout d'abord le public n'a pas l'habitude de voir. Et aussi les réalisateurs n'ont pas la possibilité de faire promouvoir le film aussi. Donc c'est pour ça que le festival se présente à Rennes.
L'idée, c'est aussi d'avoir des moments de discussion et d'échange avec les réalisateurs et réalisatrices.
Oui, à chaque projection de film, si le réalisateur là, il présente son film et puis il discute avec le public.
Du coup, en tant que réalisateur et réalisatrice, pourquoi c'est important de justement rencontrer le public et échanger avec lui à ce sujet-là?
C'est super important d'avoir le regard d'autres personnes en fait sur nos films.
Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose?
C'est pareil. Enfin, comme Polycarpe disait, c'est que nous, nos films, on peut pas toujours. Enfin, on n'a pas tous les moyens de les mettre dans des cinémas ou, des cinémas. Et du coup, le festival, c'est aussi ce qui nous permet de faire connaître nos films de manière plus économe et puis ça amène plein de personnes différentes, donc c'est intéressant aussi même pour nous.
Et Polycarpe, tu dis que le cinéma est un voyage, tous les quatre vous invitez à regarder le monde différemment. Comment le 7e art il permet de défaire un petit peu ces idées préconçues?
Moi je dirais que ça peut défaire et en même temps ça peut aussi en construire. Après, je pense que du coup, nous, l'objectif, c'était de les défaire. Et après, moi, personnellement, c'est parce que j'ai réalisé un documentaire. Et du coup, forcément, c'était plus facile pour moi de montrer ce qui se passait sur le terrain. Je pense que c'est aussi... le cinéma, c'est aussi montrer une vision qui est différente. Je pense qu'on montre tous certains stéréotypes qui sont ancrés et propres à nous aussi.
Vous avez quelque chose à ajouter, Jean-Pierre?
Pour ma part, c'est un peu différent de ce que vient de dire la personne précédente. Parce qu'en fait, moi, je suis réalisateur de dessins animés, donc on n'est pas tout à fait dans le documentaire. Quoique, le film qui sera projeté samedi prochain, je ne dirais pas qu'il est nouveau dans le genre, mais il est un petit peu différent de ce qu'on a coutume de voir en animation. Et je pense que c'est en ce sens que ce genre de festival peut apporter une ouverture déjà au public, de montrer qu'on peut voir des films d'animation autrement que des films de fiction et uniquement de fiction. Et là, dans ce film qu'on va présenter samedi, il s'agit du retour des pièces du trésor royal d'Abomey qui ont été pillées pendant l'attaque du palais de Bérezin en 1892. Donc ces pièces ont migré pendant toute cette époque et bien entendu baladées de musée en musée à Paris. En fait, le film raconte un peu cette histoire-là, quoi. Voilà. Donc, on est loin de la fiction basique. On est dans autre chose que la fiction.
Justement, dans ton film d'animation, tu abordes des thématiques comme la restitution des œuvres d'art avec les pièces du trésor royal d'Abomey. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Alors, j'aurais beaucoup de mal à en parler beaucoup plus savamment parce que je ne suis pas conservateur de musée, personnellement. L'histoire du Bénin, je pense que Polycarpe la connaît un petit peu mieux que moi. Donc je me suis renseigné sur place, bien entendu. J'ai essayé d'obtenir quelques informations au sujet de ces pièces. Je crois savoir qu'elles ont un aspect rituel. Donc c'est très très important pour le peuple béninois, parce qu'en fait c'est quand même une grosse part de son histoire à la fois religieuse et à la fois royale, puisque les deux sont intimement mêlés. Et je pense que le retour de ces pièces-là était peut-être pas attendu forcément de la part de tout le monde, mais quand même, a marqué un événement important.
Et justement, tu utilises l'animation. Est-ce que l'animation permet de faire passer des messages plus facilement que par d'autres supports? Alors, ou genres cinématographiques?
Il y a eu un film qui s'appelle Dahomey, justement, qui raconte l'exil de ces pièces-là, qui ont été rapatriées. Mais la différence, en quelque sorte, entre ce qu'on fait en animation et le film fiction ou documentaire, c'est qu'en animation, par définition, on donne vie aux objets. Et donc, puisqu'on leur donne vie, on leur donne aussi la parole. Donc, c'est un petit peu vers ce chemin-là qu'on s'est orienté, c'est de faire vivre les pièces du Trésor Royal en racontant leurs propres souvenirs, leurs réactions par rapport au public qui vient les voir au musée, et puis dire un petit peu l'histoire qu'ils ont vécue, qu'ils ont connue, et comment les choses peuvent être partagées auprès d'un public.
Et voilà. Dariel, toi, c'est plutôt la fiction et le documentaire avec l'envoûtement d'Hiro. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton film ?
En fait, ça a commencé comme un documentaire et ça a glissé peu à peu vers la fiction. Alors, c'est un film dans lequel je voulais faire dialoguer des croyances et des pratiques d'ici et puis du Burkina Faso. Et aussi, c'est un film sur les stéréotypes, en fait. Et je me suis vraiment appuyée sur un stéréotype qui est que... en fait, tout est parti du fait que je suis allée voir une magnétiseuse parce que j'avais mal au dos en revenant d'un des voyages au Burkina Faso. Et quand cette magnétiseuse m'a demandé où je m'étais fait ce mal de dos, quand je lui ai dit que c'était au Burkina Faso, elle m'a dit qu'il fallait pas aller en Afrique parce que les énergies là-bas étaient très basses. Et à partir de là, je savais qu'un film, que c'était le début d'un film en fait. Et tout est parti de là en fait, de cette idée toute faite.
Qu'est-ce qui te plaît dans le fait de mêler fiction et réalité ?
Ce que j'aime bien, c'est que ça se fait assez naturellement et ça se fait très spontanément. Et ça me surprend moi-même. Et par exemple, à partir du moment où j'ai pressenti que c'était le début d'un film, j'allais filmer des praticiens d'ici. Et moi, inconsciemment, je me mettais déjà dans un rôle, en fait. Et avec le recul, ça, c'est assez... Pour moi, c'est assez plaisant, en fait. J'aime bien, donc... et puis de toute façon, la frontière, elle est toujours un peu ténue entre fiction et documentaire, dans le sens où un documentaire, à partir du moment où il y a un point de vue, c'est jamais la réalité, en fait, quoi. Donc voilà.
C'était l'occasion aussi de parler spiritualité. Et du coup, je me tourne vers toi, Kalia, avec ton documentaire Iba, l'esprit joueur, qui parle du vaudou. Pourquoi ce choix d'en parler ?
Parce que mon beau-père est béninois et que il m'en a beaucoup beaucoup parlé et il m'a même fait un peu peur par rapport à ça et il me racontait des trucs en mode genre on peut faire tomber de la pluie sur des gens et tout, je me disais non mais j'y crois pas. Et du coup j'ai eu l'occasion pendant mon année de césure de partir là-bas et du coup je me suis dit autant parler. et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai vu qu'il y avait aussi beaucoup, beaucoup de stéréotypes par rapport au vaudou. Et pour moi, c'était hyper important aussi de pouvoir en parler, de comprendre d'où est-ce qu'il venait. Parce que de savoir qu'il y en a, c'est important, mais de savoir d'où est-ce qu'il vient, ça l'est presque tout autant pour pouvoir déconstruire tout ça. Donc c'est un peu comme ça que je suis partie là-dessus. Mais c'est beaucoup le hasard, peut-être le destin.
Déconstruire les stéréotypes, du coup, c'est vraiment ça que tu voulais montrer dans ton film ?
En fait, ça s'est fait petit à petit. Enfin, moi, c'était mon premier documentaire et j'avais encore pas fait d'école de journalisme. Donc, j'avais pas du tout les bases. Je savais que je voulais aller au Bénin, parler du vaudou. Je savais pas encore comment trop faire mon truc. Et je me suis dit, je vais faire des micro-trottoirs et je vais essayer de voir ce que les gens pensent du vaudou. Et là, je me suis dit, ah oui, il y a un décalage entre ce que les gens pensent et ce que mon beau-père me dit. Et quand je suis allée au Bénin, je me suis dit, mais ça n'a rien à voir. Enfin, c'est ni le vaudou que mon beau-père m'a vendu, mais ni le vaudou que qu'on m'a dit en France, en fait. Et du coup, je me suis dit, au final, mon documentaire, il s'est créé grâce aux personnes que j'ai rencontrées là-bas. Et c'est même pas comme si c'était moi qui l'avais créé. C'était vraiment comme un chemin qui se faisait. Et puis, au final, ça s'est lancé vers la déconstruction des choses. Parce qu'en fait, c'est quelque chose même que les habitants au Bénin ont envie aussi de montrer. Ont envie d'expliquer, en fait, le vaudou, c'est pas la sorcellerie ou quoi que ce soit. Ça va au-delà de ça. Et du coup, je me suis dit, de toute façon, je vais juste écouter ce qu'on a à me dire. Et puis, je ferai ce que j'ai avec. Et puis, ça a donné, en effet, beaucoup de déconstruction par rapport à ça.
Notamment sur le sujet de la poupée vaudou, dont on a tous l'image un petit peu. Comment on enlève ce prisme-là ?
Comment, je saurais pas le dire. Mais en tout cas, c'est vrai que la poupée vaudou, c'est quelque chose qui revient. Et moi, ça me fait penser souvent à la princesse et la grenouille, parce que moi, c'est la première idée que j'ai. Et puis en fait, je me dis, dès l'enfance, en fait, c'est quelque chose qu'on va nous donner sur le vaudou. C'est la première image qu'on va avoir souvent pour les personnes qui ne sont pas baignées là-dedans. Et du coup, je ne sais pas comment on l'enlève, mais en tout cas, je pense que c'est en étant un peu curieux et en voulant aller chercher peut-être un peu plus loin que ce qu'on a l'impression de connaître. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des gens qui en parlent. Et c'est pour ça aussi que le documentaire est là, en tout cas pour les personnes qui veulent en savoir plus, mais aussi ceux qui n'y connaissent pas grand-chose, comme moi au début finalement. Donc voilà.
Pour vous trois, du coup, l'idée, c'est d'immerger le public dans votre univers. Comment on fait pour accompagner le public à plonger dans votre art?
Question piège. Mais on va tenter d'y répondre malgré tout. Parce qu'en fait, je l'ai dit tout à l'heure, le dessin animé, on a l'habitude de le voir à la télévision, toujours dans des fictions, des personnages qui ont toujours les mêmes voix. Là, on entre dans un domaine complètement différent. Les héros de ce dessin animé sont des vrais héros. Parce qu'en fait, ils ont accompagné la vie des rois pendant des années et des années. Ce sont des héros qui n'en sont pas vraiment, parce qu'ils ne parlent pas. Ce sont des statues fixes, rigides, mais qui ont une histoire invraisemblable par derrière. Donc, j'espère que le public va comprendre à travers ce petit film, comme disait Martine, objet inanimé, avez-vous donc une âme ? Et je pense qu'ils ont une.
Je me tourne vers toi, Polycarpe. Tout à l'heure, tu as parlé rapidement des associations. Elles seront à l'honneur samedi 6 juin à l'hôtel Pasteur. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Pourquoi c'est important de faire appel à des associations en lien avec l'Afrique ?
Oui, pour moi, c'est très important parce qu'il y a des associations, déjà à Rennes, ils font des choses en Afrique, mais on ne voit pas ce qu'ils font. Donc, c'est l'idée m'est venue d'associer ces associations-là au festival pour que eux aussi bénéficient de l'événement et présentent leur association. L'idée, c'est là que l'idée est sortie.
Et je pose une dernière question et après je vous libère de ce studio où il fait très chaud. Mais c'est savoir pourquoi c'est important de faire un festival avec des films internationaux ici à Rennes.
Ouais. Non, c'est pas... Déjà au Bénin, c'est déjà international. Donc, il y a des réalisateurs qui viennent un peu partout, comme qui vont venir ici à partir d'aujourd'hui. Donc c'est déjà... L'idée même, c'est que j'ai vu qu'il y a beaucoup de rencontres ici ou ailleurs. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que ce ne sera plus des films africains qu'on va projeter. Ça va être un brassage pour tout le monde.
Et au final, dans ce festival, ce seront près de 30 films qui seront présentés au public. Donc, merci Polycarpe, Jean-Pierre, Kalia et Dariel d'être venus nous en parler. On le rappelle, vos films seront projetés à l'occasion de la 9e édition du Festival international du cinéma numérique de Cotonou, édition Rennes. Et au programme, ce sera de la fiction, des documentaires, des films animés, des rencontres et des moments de discussion. C'est gratuit, ça commence demain, le jeudi 4 juin. La cérémonie d'ouverture, c'est à 18h aux Ateliers du Vent. Le 5, ça se poursuit au même endroit. Et du 5 au 7 juin, c'est au Musée des Beaux-Arts de Rennes. Et pour plus d'informations, rendez-vous sur vos réseaux sociaux et votre site internet. Merci.
Merci à vous. Merci.
6h avant minuit.
Loïsa nous parle du premier livre de Nancy Houston dans sa chronique littéraire Des mots sur la langue.
Des mots, c'est ma gueule.
Sur la langue.
Je le vis. Je rougis. Je pâlis à ses yeux. Trouble s'éleva dans mon âme éperdue. Mes yeux ne voyaient plus. Je ne pouvais parler. Je sentis tout mon corps étranger. Brûlé.
Les livres de Loaiza.
Ça y est, j'ai senti un peu de sang sortir. Merde. Tu aurais pu le changer juste avant, non? Je sais pas où sont les cabinets dans cette maison. C'est pas la catastrophe, une goutte de sang sur une robe de femme. À 12 ans, oui, ça méritait que tu rentres chez toi, jouer écarlate au milieu de la journée d'école parce que t'avais taché ton pantalon. Mais les gens pourraient s'habituer, non? Depuis les milliers d'années que ça arrive tous les mois à la moitié de l'humanité, et on réagit toujours comme si c'était anormal. Sur les feuilles pour ma courbe de température, c'est marqué « jour de maladie ». Franchement. Comme la grossesse qui est prise en charge par l'assurance maladie, alors que sans elle, il n'y aurait pas de gens du tout, ni bien portants, ni malades. S'ils veulent se choquer du sang qui coule, ils pourraient faire un peu plus attention au champ de bataille, non? Mais ça, c'est pas maladif. Ça, c'est le beau sang rouge de la patrie. Ça, ils veulent bien en voir, ils en redemandent même. Et s'il n'y en a pas assez dans les journaux et aux informations télévisées, ils en mettent davantage dans les romans et les films. Ce sang-là, ils en avaleraient des litres, tous les jours. Music for a while. Il y a un morceau de Purcell qui s'appelle comme ça. Music for a while. La musique pendant un moment. Je crois que c'est le morceau que je préfère au monde. Je sais pas de quoi ça parle. Je comprends pas très bien l'anglais, mais c'est très lent et très poignant. Et ça dit qu'on a le droit de s'occuper simplement de la musique de temps en temps. Pas tout le temps, mais pendant un moment. Qu'on n'est pas obligé de penser sans arrêt aux guerres et aux disputes conjugales et aux problèmes de fric et autres. Mais qu'on peut simplement fermer les yeux et ouvrir les oreilles et jouir de la musique pendant un moment. C'est très beau ce mot anglais « while » parce que c'est indéfini comme durée, ça veut dire un certain temps, c'est-à-dire justement un temps incertain. Et ça me donne envie de pleurer parce que ce sont les seuls moments, pendant la musique et pendant l'amour, où le temps est justement suspendu, où il n'est plus compté, où il s'écoule. Et je suis prise tout entière par ce qui m'arrive pendant son écoulement, la jouissance musicale ou la jouissance amoureuse. Quelle blague! Non mais tu plaisantes ou quoi? Prise tout entière? De qui tu parles? Il suffit que les voisins du dessus allument la radio pour que tu n'arrives plus du tout à t'intéresser au corps de Jean. Et s'il y a le moindre signe de jouissance qui pointe à l'horizon, tu penses tout de suite aux courses qu'il faudra faire demain après le travail. Est-ce qu'il vaut mieux acheter 200 grammes ou 300 grammes de viande hachée? Ça dépend de la taille des tomates. Tout, plutôt que de sombrer dans ce plaisir qui te fait vibrer les tripes et qui t'arracherait 30 secondes à ton train-train de pensée. Quant à Music for a While, parlons-en. À quoi as-tu pensé depuis le début de ce concert? À tes tampons imbibés? Est-ce que tu sais seulement quelle variation elle est en train de jouer en ce moment? C'était les variations Goldberg de Nancy Houston. Nancy Houston, elle est canadienne. Et très tôt, elle a choisi de vivre en France et d'écrire en français. Ses livres sont écrits en français. Et celui-ci, c'est son premier livre. Elle l'a sorti en 1981. Et depuis, elle en a fait un paquet de livres qui parlent souvent de femmes. Les personnages sont des femmes. Je trouve ça toujours très excitant, en fait, de suivre... L'œuvre en train de se faire d'un auteur qui est vivant et qui écrit au présent. Donc c'est le cas de Nancy Houston, qui est toujours aussi en mouvement, aussi créative. Les variations Goldberg, elle les a orchestrées autour d'un personnage principal qui choisit d'inviter 30 personnes pour un concert de clavecin qu'elle va donner. Et pendant ce temps, pendant les 90 minutes du concert, elle a son propre monologue intérieur, mais ses invités aussi. Et il se trouve que ses invités ont tous un rapport avec elle, et souvent un rapport les uns avec les autres. Donc c'est très intéressant comment elle tisse ses voix intérieures. À chaque variation, il y a une voix intérieure différente. On passe d'un spectateur à l'autre. Et c'est pour ça que ça pourrait faire penser à Virginia Woolf, à cause de ses monologues intérieurs, mais il n'y a pas de flux de conscience, puisque c'est très séquencé d'une personne à l'autre, d'une variation à l'autre. C'est construit, c'est tissé. Et c'est très, je trouve, intéressant de voir cette démonstration des subjectivités à l'œuvre. Parce que, en théorie, à ces gens qui partagent un temps donné, un lieu donné, et qui écoutent le même concert, ils devraient vivre une même expérience. Or, c'est ça qu'on lit dans les variations Goldberg, c'est toute une multiplicité d'expériences qui peuvent être vécues pendant un temps donné. Elle explique très bien ce qu'elle recherche dans la quatrième, sur la quatrième de couverture, et elle dit « Si tu invitais 30 personnes chez toi, des êtres que tu as aimés et que tu aimes, pour t'écouter jouer au clavecin pendant 1h30 les variations Goldberg de Bach, et si ce concert se déroulait comme un songe d'une nuit d'été, c'est-à-dire si toi, Liliane, tu parvenais à faire vibrer ces 30 personnes comme autant de variations, chacune à un diapason différent, il te faudrait pour ça osciller entre le souvenir et la spéculation. Il te faudrait surtout maîtriser tes peurs. Peut-être alors, tous tes fragments de musique s'animeraient-ils enfin dans une même coulée, et cela s'appellerait les variations Goldberg, romance. » Donc effectivement, ça commence par la voix intérieure de la personne qui va jouer et qui est assez mortifiée en fait avant de faire son concert et qui se dit « mais comment est-ce que je vais pouvoir tenir 90 minutes et c'est une torture que je m'inflige et tout ça ». Et en fait, on va la retrouver à la fin, cette voix intérieure, et entre les deux, il va y avoir 30 voix différentes. Donc c'est véritablement un concert, ce livre « Les variations Goldberg ». Et ça, c'est un extrait de « Music for a While ».
C'était la chronique des mots sur la langue de Loéza. Merci à toi Loéza. On regarde s'il y a un message sur le répondeur.
Ah, le téléphone.
Téléphone.
Allô, allô.
Syllab, la radio sauvage.
Répondeur vide ce soir, mais vous pouvez nous laisser un message au 02 30 96 25 35. Ce soir, à la technique, c'était Timour. Merci à toi et à demain dans 6 heures avant minuit.
Si.
La radio sauvage.
Et le reptile.
Et 6 heures exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, il est 6 heures.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6 heures. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6 heures avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab, la radio sauvage.